France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Et comment ne pas revenir ce midi encore sur ce jugement historique, la condamnation hier de Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison, laquelle a aussitôt ravivé les critiques sur l'exécution provisoire des peines. On fera le point sur ce dispositif dès le début du journal. On parlera mobilisation des agriculteurs avec notre invité. On verra aussi comment les mesures de lutte contre la pollution de l'air permettent de faire des économies sonnante et trébuchante. Et puis l'actualité à l'étranger, on tâchera notamment d'évaluer la valeur de la mise en garde par Donald Trump hier contre une annexion de la Cisjordanie occupée telle que voulue par son ami, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Enfin, se rendra au Royaume-Uni qui s'apprête à vivre une petite révolution. Le séisme est tel que ses répliques n'ont sans doute pas fini de se faire ressentir sur tout le paysage politique pour avoir laissé ses proches démarcher la Libye du dictateur Mouammar Kadhafi afin d'obtenir un financement illégal de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007. Nicolas Sarkozy va donc devoir purger une peine de 5 années d'enfermement. Un chef d'État derrière des barreaux, c'est tout simplement du jamais vu en France. Une déflagration qui, ce matin encore, résonne partout, même si elle ne fait au fond que rappeler une chose simple. Dans toute société dite démocratique, les citoyens et les citoyennes sont effectivement égaux devant la loi, quel que soit leur statut ou leur position sociale. Mais forcément, dans un pays où la fonction suprême occupe une place aussi centrale dans l'imaginaire collectif, la sentence a de quoi couper le souffle et on ne sera pas surpris non plus qu'un jugement historique tel que celui rendu hier nourrisse déjà la polémique. Quand beaucoup à gauche se félicitent, la droite dans son ensemble crie au scandale. De son côté, l'ex-chef d'État lui redit son innocence et annonçait dès la sortie de la salle d'audience hier son intention de faire appel, sauf que sa peine est assortie aujourd'hui d'un mandat de dépôt à effet différé assorti d'une exécution provisoire, ce qui signifie concrètement que Nicolas Sarkozy sera bientôt incarcéré, même en cas d'appel. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Alors, depuis hier, ce dispositif de l'exécution provisoire donc est assez largement critiqué. Il convient de rappeler qu'il n'est pas uniquement réservé aux hommes politiques. Il s'agit d'un outil qui est même utilisé tous les jours, en réalité, dans les tribunaux français, et ce, depuis un changement de la loi datant de 2020.
Oui, on va d'abord parler du mandat de dépôt à effet différé. C'est un dispositif qui a été créé en 2020 et il permet d'adoucir la violence d'une incarcération à la barre. Le condamné n'est pas conduit directement en prison, il est convoqué devant le juge d'application des peines dans un délai maximum de 4 mois pour convenir d'une date donc d'incarcération. La personne peut ainsi organiser son absence sur le plan professionnel et familial. Et ce mandat de dépôt à effet différé oblige bien souvent les juges à prononcer cette exécution provisoire, car le président de l'Union syndicale des magistrats le rappelle, la loi exige qu'au-dessus d'un an de prison ferme, la peine doit être mise à exécution. Ludovic Fria est le président de l'Union syndicale des magistrats.
Il faut bien comprendre que l'exécution provisoire, on l'a uniquement dans le cas du mandat de dépôt à effet différé. Dans le cas du mandat de dépôt normal, il n'y a pas d'exécution provisoire, puisqu'en fait, le mandat de dépôt se suffit à lui-même et est exécuté tout de suite. Et on sait, par les statistiques du ministère, que lorsqu'une peine ferme est prononcée, très souvent, majoritairement, elle est exécutée immédiatement. On sait que sur les peines fermes, il y a à peu près, on va dire, en 60% des peines fermes qui sont exécutées immédiatement, et on passe à 80, voire 85% des peines fermes exécutées immédiatement lorsqu'on atteint des peines, on va dire, sensibles, importantes, de l'ordre de 5 ans.
5 ans de prison ferme, ce qui a donc été prononcé pour Nicolas Sarkozy. Alors, il est toujours possible de revenir sur cette loi de 2020 du mandat de dépôt à effet différé, mais il faudra en mesurer les conséquences, car c'est un outil abondamment utilisé dans les juridictions pour les violences contre les personnes, par exemple, ou encore le narcotrafic, ajoute Ludovic Fria.
Merci Anne Fauquemberg.
Au deuxième tour de la révolte paysanne, des actions sont menées depuis ce matin un peu partout en France.
Oui, et généralement dans le calme, une mobilisation à l'appel de l'Alliance FNSEA Jeunes Agriculteurs pour protester contre les importations à destination de l'Europe qui ne répondent pas aux mêmes normes de production, de sorte que la filière s'alarme aujourd'hui du risque de déstabilisation de son activité. En clair, les agriculteurs dénoncent une concurrence qu'ils jugent déloyale du fait de ces normes, donc moins-disantes sur le plan à la fois sanitaire et environnemental. Pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Rémi Avignon, chargé de recherche en économie à l'INRAE, l'Institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Si les importations liées notamment à l'accord de libre-échange avec le Mercosur constituent donc l'étendard de cet appel à la mobilisation, en réalité, ce mouvement est nourri par une inquiétude plus large de très nombreux agriculteurs qui concerne la chute des cours, mais aussi les risques que cela fait porter sur la santé économique de leurs exploitations et de l'industrie. On va y revenir peut-être pour commencer. Parmi donc les nombreuses filières céréaliers, viticulteurs, éleveurs, quelles sont celles qui connaissent les plus fortes tensions aujourd'hui ?
Oui, donc effectivement, l'incertitude, c'est vraiment ce qui caractérise les marchés agricoles. L'incertitude sur les prix, notamment. Donc, si on regarde au niveau global, en fait, on voit qu'il n'y a pas, en réalité, des prix qui sont particulièrement bas en ce moment. Donc, on se situe à un niveau qui est compris entre le pic haut de 2022-2023 et le niveau antérieur à l'Ukraine. Et donc, pour répondre à votre question sur les filières qui connaissent aujourd'hui des prix particulièrement bas, on a donc en particulier la pomme de terre qui a chuté spectaculairement cette année suite à une année 2024 avec des très bons rendements et des prix élevés qui ont encouragé la mise en culture et donc un excès d'offres. Et on a aussi le porc qui est assez volatile de manière traditionnelle et là qui, après quelques années assez élevées, connaît un prix plutôt bas.
Est-ce que les causes donc de toutes ces difficultés économiques, commerciales sont à chercher là encore dans chaque filière, ou bien est-ce que certaines causes sont, disons, transversales ?
Oui, donc parmi les causes transversales, il y a effectivement la situation du commerce international avec des fortes tensions en ce moment. Donc on peut parler des droits de douane imposés par Trump, il y a évidemment l'accord Mercosur, ou encore la tension peut-être avec la Chine en ce moment. Là, c'est plutôt particulier au porc, qui est donc la Chine qui accuse l'Union européenne de dumping sur le porc et qui a, à titre provisoire, mis des droits de douane importants. Donc il y a l'environnement commerce international. Il y a aussi évidemment le bouleversement climatique. C'est de plus en plus, on va avoir des fluctuations sur les rendements agricoles, puisqu'on a des événements climatiques qui deviennent plus extrêmes. Et donc ça, c'est les deux aspects qu'on peut parler comme étant transversaux. Et ensuite, évidemment, il y a des spécificités à chaque secteur, puisque c'est pas du tout la même manière de fixer des prix sur des grandes cultures, donc des céréales, parce que ça va être stockable, alors que sur du lait, par exemple, des produits qui sont moins stockables, la dimension filière va être beaucoup plus importante et l'aspect commerce international sera peut-être moins présent directement.
Parmi les opérations donc menées aujourd'hui, nombre d'entre elles ciblent les distributeurs qui sont accusés là aussi de favoriser des prix qui ne rémunèrent pas correctement donc l'agriculture française. Est-ce que cette accusation vous semble justifiée ?
Donc, pour nous chercheurs, c'est très difficile d'étudier ces questions de répartition de la valeur au sein des chaînes. Pourquoi ? Parce que le secret des contrats est assez important et donc c'est difficile de connaître les prix aux différents niveaux de la chaîne. Pour autant, ce qu'on peut dire, c'est que lorsqu'on voit les agriculteurs qui manifestent, en fait, ils vont manifester à la fois pour des prix trop bas parfois, observés en rayon, ou à la fois pour des prix trop élevés. En fait, si on veut vraiment avoir un point de vue d'économiste là-dessus, ce qui est important pour un agriculteur, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas un excès de marge qui est effectué sur son produit lorsqu'il est vendu en magasin, parce qu'un excès de marge, ça veut dire des prix élevés, et donc ça veut dire consommateur qui se détourne de votre produit au profit d'un autre produit.
Lorsqu'on écoute les propos donc des agriculteurs, de leurs représentants, ce sont pas seulement en réalité les tensions conjoncturelles qui sont mises en avant pour expliquer donc cette journée de mobilisation. Il y a aussi l'idée que l'agriculture française se dégraderait sur le long terme. Est-ce que les indicateurs économiques traduisent ce sentiment d'érosion ?
Effectivement, c'est peut-être le plus inquiétant, c'est cette tendance de long terme. On voit que l'excédent commercial français a plutôt tendance à diminuer. Et donc, on se concentre beaucoup sur la concurrence internationale, et en particulier hors Union européenne, donc avec ces histoires de normes. Mais peut-être le plus inquiétant pour la France, c'est de voir que les parts de marché de l'industrie agroalimentaire française au sein de l'Union européenne ont tendance à diminuer. Et les travaux de l'équipe SMART à Rennes, avec des collègues à l'INRAE, qui montrent qu'on voit qu'il y a une tendance à la stagnation de la productivité dans le secteur agroalimentaire, à la transformation, et qu'en dehors de l'aspect prix, en fait, finalement, c'est même la compétitivité hors prix de nos productions qui ne serait pas si élevée.
Donc, c'est-à-dire et on va que devoir, nous, je crois, s'arrêter là.
De la très forte qualité. Ok.
À défaut d'une liaison suffisante. Merci Rémi Avignon, donc chargé de recherche en économie à l'INRAE, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Les mesures de lutte contre la pollution de l'air en Île-de-France ont permis d'économiser 61 milliards d'euros en 10 ans.
Oui, c'est ce que révèle une étude d'Air Paris dévoilée ce matin. Enfin, une bonne nouvelle, serait-on tenté de dire, alors même que l'accord de Paris sur le climat s'apprête à fêter cette année ses 10 ans. Véronique Robérotte, bonjour.
Bonjour.
Dans le détail, ces économies proviendraient essentiellement de la réduction de la mortalité liée aux particules fines.
Les particules fines, dont on sait qu'elles sont responsables d'environ les trois quarts de la mortalité liée à la pollution de l'air en Île-de-France, c'est l'ennemi numéro un de notre santé dans les grandes villes et périphéries. Ce que dit l'étude d'Air Paris, c'est qu'entre 2010 et 2019, on a observé une baisse de 40% du nombre de décès prématurés liés à la pollution atmosphérique. Ils sont passés de 10 350 à 6 220. Et ceci grâce aux politiques publiques de diminution de la pollution de l'air qui ont été particulièrement efficaces. Action de diminution du trafic routier ou aussi de modernisation du parc roulant en Île-de-France. Résultat, eh bien, des dizaines de milliards d'euros économisés, 61 milliards. Donc, car moins de décès prématurés, moins aussi de traitements de maladies chroniques, économie en coûts d'hospitalisation et aussi en arrêt maladie. 61 milliards d'euros d'économiser pour un investissement sur la même période, donc 2010-2019, de plus de 5 milliards d'euros pour surveiller donc et améliorer la qualité de l'air. Le retour sur investissement est donc spectaculaire et montre, comme souvent en environnement, qu'il est toujours plus avantageux d'investir que de ne rien faire, sachant qu'il y a encore une marge de manœuvre. Les impacts économiques de la pollution de l'air coûtent encore 28 milliards d'euros par an, soit selon Air Paris, 2200 euros par francilien.
Merci Véronique Robérotte.
Amazon va payer 2,5 milliards de dollars pour tromperie des consommateurs.
Oui, le géant du commerce en ligne était accusé en l'occurrence d'avoir trompé des dizaines de millions de consommateurs pour les abonner à son service Prime sans leur consentement explicite, c'est-à-dire non seulement en rendant difficile la possibilité de refuser d'une part cet abonnement, mais aussi en créant un système d'annulation d'autre part délibérément complexe. Alors ce montant exceptionnel devra permettre d'indemniser les abonnés lésés, mais surtout en réalité de clore définitivement la procédure judiciaire américaine. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Après des années de mansuétude à l'égard des grandes entreprises, s'agissant notamment de leur interface, parfois manipulatrice, on ne peut que se féliciter a priori d'une telle sanction. Malgré tout, cela pose encore une question, Marie, celle de savoir ce que représente réellement ce montant donc astronomique par rapport au gain que cette fraude aura permis à l'entreprise d'engranger.
Alors la transaction avec l'autorité américaine de protection des consommateurs ne le dit pas, mais le fait que le montant que va payer Amazon pour faire cesser les poursuites soit le plus élevé jamais versé donne quand même une indication. 1 milliard pour l'autorité américaine, 1,5 milliard pour dédommager les 40 millions de consommateurs américains qui se sont retrouvés abonnés à Prime alors qu'ils pensaient juste régler un achat, et tous ceux qui ont eu par la suite toutes les peines du monde à se désabonner. L'accord conclu hier permet à Amazon de ne pas reconnaître ses torts, mais pour la petite histoire, le système d'annulation à Prime était surnommé en interne Iliad, du nom de la longue et interminable guerre de Troie, ce qui en dit long sur le cynisme du géant du commerce en ligne. Aujourd'hui, 200 millions de personnes dans le monde sont abonnées à Amazon Prime, ce qui est un record mondial. Lancé en 2005, ce service offrant une livraison gratuite en 2 jours a clairement contribué à faire d'Amazon le géant incontournable du e-commerce qu'il est devenu aujourd'hui. Le mal, ou plutôt le gain étant fait, on peut effectivement s'interroger sur le montant même record de la pénalité infligée. 2,5 milliards de dollars à verser, c'est beaucoup et à la fois pas grand-chose pour une entreprise qui a fait 187 milliards de chiffre d'affaires et 20 milliards de bénéfices l'an dernier. Précisons qu'en Europe, Amazon a aussi fait l'objet d'une plainte déposée par plusieurs organisations de consommateurs en 2021, ce qui a obligé l'entreprise à faciliter le désabonnement à son service Prime dès 2022, ici en Europe, mais sans rien changer pour autant à ses pratiques outre-Atlantique jusqu'à aujourd'hui.
Merci Marie Viennot. Généralement présenté comme l'une des bêtes noires de Donald Trump, James Comey, ex-patron du FBI, peut désormais se prévaloir d'un statut privilégié. Inculpé hier de parjure et d'entrave à la justice, il est devenu la première victime de la vengeance promise par le président américain à tous ceux qui l'ont tourmenté par le passé. Alors faut-il y voir là une preuve flagrante de l'instrumentalisation du ministère de la Justice à des fins politiques? Pour rappel, James Comey avait déjà été limogé par Donald Trump en 2017, alors que la FBI enquêtait sur d'éventuelles ingérences russes dans sa campagne présidentielle, sauf que les faits qui lui étaient reprochés menaçaient d'être prescrits le 1er octobre, d'où cette inculpation dont tout porte à croire, malgré ses dénégations, qu'elle relève d'une commande directe de Donald Trump lui-même, à tout le moins d'une procureure inexpérimentée, en poste depuis moins d'une semaine, fidèle bien entendu au président, et le tout contre l'avis de ses propres subordonnés, de son prédécesseur qui venait d'ailleurs d'être licencié.
Benjamin Netanyahou est attendu à New York aujourd'hui.
Un long voyage, s'il en est, pour rejoindre le siège des Nations Unies et pour lequel l'avion du Premier ministre israélien a été contraint d'emprunter un itinéraire de vol pour le moins inhabituel en contournant soigneusement les espaces aériens de tous les pays susceptibles d'appliquer, en cas d'atterrissage d'urgence, le mandat d'arrêt émis à son encontre par la Cour pénale internationale. Alors après ces multiples détours, le chef du gouvernement accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés devrait ainsi rejoindre sans encombre la tribune de l'ONU, où il a déjà promis de s'élever avec force contre tous ceux qui soutiennent un État palestinien et au-delà, appelle surtout à mettre un terme à la guerre de représailles diaboliques menée par l'État hébreu visant à l'anéantissement total de la bande de Gaza. En revanche, une question se pose. Benjamin Netanyahou réitérera-t-il son injonction à étendre la colonisation juive en Cisjordanie, voire annexer carrément le territoire occupé comme l'y enjoignent à le faire ses ministres d'extrême droite? Christian Cheneau, bonjour.
Bonjour.
Hier, Donald Trump a pour la première fois et publiquement donc pris position sur ce sujet. Je ne permettrai pas à Israël d'annexer la Cisjordanie. Cela n'arrivera pas, a-t-il déclaré. Est-ce que cette affirmation, Christian, est de nature à dissuader son ami de pousser toujours plus loin ses ambitions maximalistes?
Écoutez, nous aurons une première indication cet après-midi, donc avec l'intervention du Premier ministre israélien à la tribune de l'ONU, et puis surtout lundi prochain, après son entretien à la Maison-Blanche avec Donald Trump. Le seul qui puisse vraiment tordre le bras de Benjamin Netanyahou, c'est le président américain, qui n'a pas apprécié les récentes frappes de l'État hébreu contre la direction du Hamas à Doha au Qatar. Le président américain n'écoute pas grand monde, sauf les émirs du Golfe, qui lui ont promis au printemps dernier 3 trillions de dollars d'investissement dans l'économie américaine. L'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis sont montés au créneau pour le convaincre de ne pas valider les projets annexionnistes israéliens de la Cisjordanie occupée, ce qui enterrerait définitivement la solution des deux États. Le président américain doit recevoir le prince héritier d'Arabie Saoudite en novembre prochain. Pour autant, si Donald Trump rejette publiquement l'annexion de ce territoire palestinien, il ne parle pas de la colonisation juive qui, elle, ne devrait pas faiblir, et ce, avec l'assentiment de son administration. Pendant des années, ses prédécesseurs ont empêché la mise en route du projet de colonie E1 autour de Jérusalem qui vise à couper la Cisjordanie en deux. Les travaux viennent de commencer et Donald Trump n'a pas mis son veto.
Merci Christian Cheneau.
C'est une petite révolution. Le Royaume-Uni va introduire une carte d'identité numérique pour les nationaux et ses résidents.
Et oui, c'est ce qu'a annoncé ce matin le gouvernement, et c'est un changement majeur puisqu'il n'existe pas en réalité aujourd'hui au Royaume-Uni de carte nationale d'identité à la française. La mise en place d'un tel titre fait d'ailleurs débat depuis maintenant des années outre-Manche, et la raison invoquée désormais par les autorités, Gaëlle Joly, c'est de mieux lutter contre le travail illégal et rendre le pays moins attractif.
Ce document stocké sur les téléphones deviendra obligatoire pour pouvoir travailler dans le pays. Keir Starmer assure dans un communiqué que ce plan servira à combattre les réseaux criminels qui promettent un accès au marché du travail britannique pour profiter des traversées dangereuses et illégales de la Manche. Dans une interview accordée au journal The Telegraph ce matin, le Premier ministre a reconnu que le Parti travailliste s'était trompé sur la question de l'immigration, avait trop longtemps évité la question et ignoré les craintes des citoyens britanniques. Plusieurs fois, la France a dénoncé l'absence de ces cartes officielles qui constituent, selon elle, un facteur d'attraction. L'annonce fait débat ici car il n'existe pas de carte d'identité et les défenseurs des libertés civiles montent déjà au créneau. Nigel Farage, le chef de file du parti d'extrême droite Reform UK en tête dans les sondages, a assuré qu'il s'opposerait à ces cartes d'identité. Cela ne changera rien à l'immigration clandestine, écrit-il dans un tweet, juste à contrôler et à pénaliser le reste de la population.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi marqué par le retour, mais si des éclaircies sur la majeure partie du pays, à l'exception d'un large quart nord-est. Quant aux températures, elles seront comprises entre 12 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Alison Vic-Robeck. À 18h, vous avez rendez-vous avec Julie Paco pour le prochain journal de la rédaction.